Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM 98 pour un nouveau rendez-vous compte. Des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, des projets solidaires partagés, des créations originales qui autour de nous enrichissent notre présent. C'est ici et maintenant. Aujourd'hui, une rencontre inattendue qui nous renvoie à la nuit des temps et des hommes dans ce rendez-vous compte qui, je le sens, va prendre l'eau. La preuve, cet extrait d'un documentaire de la chaîne YouTube de vulgarisation historique et scientifique sur Vol d'Histoire.
Du besoin naît l'invention. Aujourd'hui, les sous-marins. Les premiers écrits attestant de l'exploration sous-marine par l'homme remontent à ni plus ni moins que l'Antiquité. C'est Alexandre le Grand, vers 325 avant Jésus-Christ, qui aurait utilisé pour la première fois un système pour explorer les profondeurs du golfe Persique.
Aujourd'hui, je reçois Louis. Bonjour Louis.
Bonjour.
Mais je reçois aussi Éléonore. Éléonore qui a envie de faire de la radio, qui va présenter l'émission avec moi. Bonjour Éléonore.
Bonjour.
Louis, tu as passé ton enfance à Montlignon, donc à quelques kilomètres de nos studios. Tu as 18 ans, comme beaucoup d'autres jeunes hommes de ta génération, mais tu as déjà suivi un parcours personnel peu commun et tout à fait original. Tu peux nous expliquer ?
Donc aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je me suis engagé dans la Marine nationale à 17 ans, l'âge minimum pour entrer dans la marine. Et là, actuellement, je suis sous-marinier, pilote de SNLE et torpilleur.
D'accord. Donc déjà, c'est assez impressionnant parce que je ne sais pas vous, mais moi, je ne connaissais pas de sous-marinier et encore moins de torpilleur. D'où est venue cette envie, Louis ? Un film, une rencontre, le goût de l'aventure ? Et depuis quand ?
Quand je suis rentré au lycée, j'ai su que je voulais m'engager dans l'armée. Je savais pas trop dans quoi. Après m'être questionné et avoir fait, je suis allé dans un CIRFA, donc c'est les centres de recrutement de l'armée. J'ai su que je voulais rejoindre la Marine nationale. Et à l'issue, j'ai de la famille dans les sous-marins déjà, et donc c'est pour ça qu'après j'ai choisi la voie des sous-marins et particulièrement ceux de Brest.
Alors quand tu dis que tu as su, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a donné cette envie comme ça ?
Les sous-marins, c'est unique, hein. Il y a rien qui se rapproche de ça. Les bateaux, on peut voir ça dans le monde civil. Les sous-marins, il y en a que dans la marine et que dans l'armée, donc c'est pour ça.
D'accord.
Alors comment on se forme à devenir sous-marinier ?
Alors pour devenir sous-marinier, moi je suis arrivé à Brest, c'est un peu particulier parce que pour faire tout ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière, je suis arrivé à Saint-Mandrier pour faire une formation initiale, donc ce qu'on appelle les classes, se former dans tout ce qui est monde militaire, marcher au pas, tout ça. Ensuite je suis allé faire une formation élémentaire métier, spécialité mot-machine, donc ce qui regroupe les spécialités de mécanicien en armement, mécanicien naval et électricien. À l'issue, grâce à mon classement, j'ai pu remonter à Brest pour aller faire les sous-marins. Donc là, on a une première formation sur les connaissances générales des sous-marins. À l'issue de ça, j'ai pu intégrer la formation pilote de sous-marins, qui dure 3 mois, qui est assez sélective et plutôt compliquée. Et après ça, j'ai fait une formation torpilleur. Et une fois que tout ça est terminé, il y a déjà 4 mois qui sont écoulés et on arrive à l'alerte si on réussit tous les cours et on attend notre embarquement sur SNLE.
Donc tu as fait des formations sur un simulateur aussi ?
Pour la formation pilote, c'est obligatoire. On simule tout ce qui peut se passer en mer, mais sur un simulateur avant. Et pendant le cours, j'ai fait plus de 100 séances de simulateur de 2 heures à chaque fois. Donc c'est beaucoup, mais c'est nécessaire. Même encore aujourd'hui, j'ai pas encore le niveau pour embarquer. Donc on s'entraîne tout le temps, toutes les semaines, pour essayer d'avoir ce niveau et pouvoir embarquer un jour.
Donc c'est un peu comme un jeu vidéo.
Alors c'est un peu comme un jeu vidéo, le stress n'est pas le même. On est regardé, on est filmé, évalué, donc le stress est très différent quand même.
Donc tu as ton diplôme mais tu n'as pas encore piloté de sous-marin, pourquoi ?
Alors pourquoi on pilote pas des sous-marins ? Enfin tant que j'ai pas embarqué, je peux pas encore piloter de sous-marin. Les SNLE ils suivent un cycle qui est particulier, donc on peut pas sortir les sous-marins de leur bassin ou du quai juste pour former des pilotes. Donc on s'entraîne sur simulateur et le jour où le sous-marin partira, là on le pilotera pour de vrai, mais pas avant.
Alors tu viens de parler de SNLE, tu peux préciser ?
Alors SNLE c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est les sous-marins français qui servent à la dissuasion nucléaire. On a un autre type de sous-marin en France, c'est les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, qui eux sont basés à Toulon. Et eux, comme son nom l'indique, c'est des sous-marins nucléaires qui sont d'attaque et qui, souvent, la plupart du temps, encadrent le Charles de Gaulle. Voilà, ils ne sont pas du tout les mêmes missions que les SNLE qu'on a à Brest.
Au total, 10 engins, je crois, sous-marins.
C'est ça.
Pour la marine française.
Tout à fait.
Donc, tu es déjà monté à bord d'un sous-marin ?
Tout à fait, ouais, déjà une dizaine de fois pour différentes missions, que ce soit une visite à bord pour découvrir et maintenant plus précisément pour travailler sur les installations en détail afin d'être formé pour le jour où on embarquera pour de vrai.
Et quelles ont été tes pensées, tes sensations lorsque tu as fait l'expérience pour la première fois ?
Moi, la première fois que j'ai vu un SNLE, c'était bassin à sec. Donc quand il était pour entretien, c'est très impressionnant parce qu'un SNLE, c'est 138 mètres de long, c'est 14 000 tonnes. C'est énorme. Moi, ça m'a fait surtout très peur la première fois que je l'ai vu parce que je me suis dit que c'est moi qui allais piloter ça, donc ouais, c'est très très impressionnant, mais après au fur et à mesure on s'habitue, même si j'ai quand même une grosse appréhension le jour où je piloterai pour de vrai.
Ok. On fait une première pause musicale avec une chanson que, lorsqu'on a préparé l'émission, Louis, tu m'as dit ne pas connaître. Bon, un peu normal, c'est une chanson qui date de 1966, une chanson composée pour Ringo Starr par John Lennon et Paul McCartney, un refrain facile à retenir et à chanter. On écoute, bien sûr, le cultissime Yellow Submarine des Beatles.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. Our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
And our friends are all aboard. Many more of them live next door. The band begins to play.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine.
Vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte dont l'invité est Louis, 18 ans, futur pilote de sous-marin.
Alors, à propos de ce Yellow Submarine des Beatles qu'on vient d'écouter, vous pouvez découvrir une sculpture de 16 mètres de ce sous-marin mythique à l'aéroport John Lennon de Liverpool. Liverpool, bien sûr, la base des Beatles. De plus, je ne sais pas si vous savez, mais la femme d'ordre alphabétique, le poissonnier du village dans la série Astérix le Gaulois, eh bien, s'appelle Yellow Submarine, vous le saviez ?
Pas du tout.
Voilà, au moins on a tous appris quelque chose ce matin. Bon, alors il existe aussi une autre version de la chanson des Beatles, surprenante. Alors on verra si on a le temps de la passer. Louis, on a enregistré cette émission fin août, pourquoi ? Un petit peu dans l'urgence, pourquoi ?
Moi j'ai eu des permissions que fin août. J'étais en train de m'entraîner justement sur simulateur tout le mois d'août. en partie aussi le mois de juillet. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir 2 semaines de permission et je suis obligé de rentrer à Brest parce que j'ai peut-être un futur entraînement de bateau qui se prépare. Et parce que bon bah les vacances sont comptées, donc je peux pas prendre tout le temps que j'aimerais prendre.
Et donc toute ta formation a lieu à Brest là quand tu parles.
Oui. Tout à fait.
D'accord. Et donc dans les tout prochains jours, tu peux être amené à prendre le large, à quitter la région parisienne. Et tu m'as expliqué aussi que tu pourrais éventuellement être appelé pour un petit peu en cas d'urgence remplacer un pilote qui serait blessé ou malade. Comment ça se passe dans ces cas-là?
Bah alors c'est des situations quand même, c'est très très rare, mais malheureusement si un pilote n'est pas apte à faire sa mission en mer, le sous-marin peut être amené à refaire surface pour remplacer son personnel. Après ça arrive, enfin c'est vraiment très très rare comme situation, parce que c'est très grave. On est quand même sur une mission de dissuasion nucléaire, le sous-marin est censé être indétectable, donc faire un retour en surface c'est échec mission.
Comment se déroule la vie à bord d'un sous-marin?
Alors je vais pas pouvoir parler en mon nom en ce qui concerne ça parce que j'ai jamais embarqué, mais de ce que je sais, ça se passe très bien. Sinon, ça marcherait pas. Mais non, une très bonne ambiance, l'esprit d'équipage est présent, c'est ce qui apparemment permet de tenir. Donc hâte de découvrir ça.
Un équipage, c'est combien? Alors j'allais dire d'hommes, mais est-ce qu'il y a des femmes d'ailleurs?
Alors depuis le début d'année, on a le Terrible Rouge. C'est un équipage qui est maintenant féminisé. Il y avait quelques officiers femmes avant sur les sous-marins, mais très peu. Et donc voilà, depuis le début d'année, il y a un équipage consacré spécialement aux femmes.
Donc un équipage entièrement féminin, c'est ça?
Alors malheureusement, la marine n'a pas encore assez de personnel pour féminiser entièrement un équipage, mais plusieurs femmes sont déjà dessus.
Et c'est combien de personnes donc, équipage?
C'est environ 110 personnes
équipage. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est beaucoup, effectivement. Alors comment ça se déroule pour l'alimentation, pour les repos, les loisirs, tout ça?
Alors à bord, en ce qui concerne l'alimentation, bah il y a tout un poste, hein. Il y a une cuisine, on a même un boulanger-pâtissier à bord. Tout se passe très bien normalement à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des repas à thème pour divertir l'équipage. Pareil en termes de divertissement, on prend ce qu'on a, des livres, des films, des activités. Après il y a des activités à bord pour occuper aussi le personnel, les distraire. Mais non, normalement tout se passe très bien.
Et les relations avec les proches, la famille, les amis?
Alors ça c'est plus compliqué, la famille nous envoie un message de 40 mots filtrés par semaine. Par contre, nous à bord, on n'émet aucun message. La famille n'a aucune nouvelle pendant la durée de la mission, mais nous on en a une fois par semaine.
D'accord, ouais c'est quand même sérieux quoi, je veux dire, c'est pas le Club Med.
Pas trop non.
Voilà. Et en ce qui concerne les soins médicaux, s'il y a besoin?
Il y a, alors je vais pas dire de bêtises, on a un médecin sûr et je crois qu'on a un ou deux infirmiers anesthésistes à bord. Donc non, on est capable de faire des opérations à bord s'il y a un problème.
D'accord, ouais, il faut être vraiment autonome.
Tout à fait.
Et pour combien de temps une mission, ça peut durer?
Bon, je vais pas, minimum 2 mois, après je pourrais pas avoir plus de précision là-dessus.
D'accord, ouais, parce que tu es quand même astreint au secret défense.
Tout à fait.
C'est quoi le secret défense en fait?
Bon, on a accès à quand même pas mal d'informations sensibles sur les sous-marins et pas forcément le droit de les divulguer comme
ouais,
ça.
Ouais, mais c'est normal. Bon, Éléonore, est-ce que toi, tu aimerais monter à bord d'un sous-marin?
Oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est vraiment, ce serait vraiment une expérience très intéressante à faire.
D'ailleurs, je crois que tu aimes les émotions fortes.
Oui, en effet. Tant que ça peut m'apporter de la richesse dans mes expériences, oui.
D'accord. Et quel métier aimerais-tu faire?
Plus tard, j'aimerais être journaliste plutôt spécialisée dans l'audiovisuel.
D'accord, peut-être que tu feras des reportages sur les sous-marins où Louis sera pilote.
Peut-être.
Ce serait marrant. On va demander à IDFM d'organiser ça. Voilà.
On écoute maintenant un extrait du chant des sous-mariniers de la Marine nationale avant de retrouver notre invité Louis, 18 ans, sous-marinier.
Ils sont sur les mers Yeah.
Louis, est-ce que tu connaissais ce chant des mariniers?
Pas du tout.
Voilà, tu vois encore une chose qu'on a, que tu auras appris grâce à Rendez-vous Compte. Alors, dans le premier couplet, les paroles disent, pour faire partie de cette élite, donc quand même les sous-mariniers, il faut savoir boire et chanter, et comme on n'est pas certain de vivre, il faut savoir en profiter, en profiter. Est-ce que, selon toi, on chante et on boit beaucoup à bord des sous-marins?
Alors on chante, je pense, ça c'est sûr. Après boire, on est quand même sur notre lieu de travail, même en mission. Donc non, ça à bord, ça se passe pas.
Pas d'alcool à bord?
Non.
Ouais, c'est bien. C'est plus prudent, hein, c'est vrai que bon. Dans la chanson, on dit aussi tous ces petits gars, ces prolétaires, qui par amour pour leur bateau, ont un beau jour quitté leur mère pour s'en aller au fond des flots, au fond des flots. Comment ont réagi tes proches, ta famille? Tu nous as dit que tu avais des membres de ta famille dans les sous-marins.
J'ai mon oncle, hein, qui est sous-marinier. En plus, normalement, je vais peut-être embarquer sur le même équipage que lui.
Ah.
Mais non, mes proches ont bien réagi. Après, j'ai toujours pas fait ma première mission. C'est le plus dur parce qu'on a vraiment aucune nouvelle. Après, globalement, ils ont bien réagi, même si c'était un choix personnel de ma part auquel ils n'ont pas trop eu le choix. Mais non, globalement, ça se passe très bien avec eux.
Et donc, tu parlais souvent avec ton oncle de son expérience de sous-marinier?
Mais étonnamment, pas du tout. Hein. Je me suis engagé dans les sous-marins. Dès qu'on me demande si j'avais de la famille à l'intérieur, on me demande si c'est grâce à lui. Mais non, j'ai pas eu trop de nouvelles à ce niveau-là.
Donc comment, selon toi, va se dérouler ta carrière? C'est-à-dire, quelles sont tes attentes, ce que tu projettes de faire?
Alors, la marine, à ce niveau-là, c'est un milieu vraiment très riche. Moi, je suis rentré par la petite porte. Je suis matelot, donc le plus bas de l'échelle. J'ai une formation déjà qui regroupe trois spécialités dans le futur. Donc, comme ce que j'ai dit, mécanicien, électricien ou mécanicien en armement. À l'issue de ça, je vais pouvoir décider de faire un brevet d'aptitude technique au bout de quelques années. Là, c'est pareil, la marine nous laisse le choix de poser le BAT qu'on veut. Après, c'est eux qui choisiront.
C'est quoi le BAT?
C'est le brevet d'aptitude technique.
Ok.
Donc moi, j'aimerais bien passer le brevet d'aptitude technique mécanicien naval. Et à l'issue de ça, plusieurs années encore après, on peut passer un brevet supérieur. Et là, suivant le BAT qu'on a fait, là, je vais pouvoir demander le brevet d'aptitude, le brevet supérieur atomicien ou mécanicien naval, encore une fois. Donc non, vraiment, la marine offre beaucoup de formations, avec des équivalents aussi dans le civil pour la fin de carrière.
C'est quoi un brevet d'atomicien?
Un brevet supérieur atomicien, on est formé à l'école atomique à Cherbourg, on est atomicien sur les réacteurs nucléaires des sous-marins, et après on ressort dans le civil avec un équivalent pour aller travailler dans les centrales nucléaires.
D'accord, ouais, donc c'est extrêmement pointu en fait.
Tout à fait, après c'est une formation qui est très compliquée, hein. Pour l'instant je prétends pas la faire, parce que c'est quand même un niveau... C'est quand même une formation très dure.
Est-ce qu'il y a une différence entre pilote et commandant de sous-marin?
Alors oui, la différence, elle est énorme. Moi, je suis que simple pilote. Hein. Tous mes faits et gestes sont supervisés par ce qu'on appelle un maître de centrale. Lui, le commandant, il gère tout le sous-marin dans l'entièreté.
Mais pilote, alors qu'est-ce qu'on a? Un volant entre les mains et puis on fait des zigzags, des courses?
On a un manche entre les mains, mais sinon on a un pilote automatique. Mais on peut être amené sur certains cas à piloter nous-mêmes.
Ah mais c'est autant de responsabilités que celle du commandant, non?
Alors oui et non, parce que pareil, chaque action du pilote sont supervisées par le maître de centrale, donc malheureusement s'il y a un problème, c'est pas sur moi directement qu'on va venir taper sur les doigts.
Bon, ça rassure. Mais enfin, il faut mieux qu'il n'y ait pas de problème.
Non, c'est sûr.
Les sous-marins sont principalement en fonction dans la marine nationale, hein, ce que tu as dit, comme nous le rappelle cette bande-annonce de RMC Découverte.
Jeudi prochain.
On considère que technologiquement, c'est l'objet le plus compliqué que fait l'homme. Bien plus compliqué qu'une fusée, qu'une capsule qu'on envoie dans l'espace.
À bord des sous-marins français, propulsez-vous dans un siècle d'innovation technologique.
La propulsion nucléaire va permettre aux sous-marins de naviguer autant de temps qu'il le voudra en plongée.
Concrètement, aujourd'hui, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins français peut atomiser n'importe qui sur la planète.
L'épopée des sous-marins français, jeudi prochain à 20h50 sur RMC Découverte.
Des entreprises privées recourent également à des sous-marins par des recherches ou des câblages internet. Aimerais-tu par exemple approcher le Titanic comme cela a déjà été fait par d'autres avant toi?
Alors vraiment pas. Ils sont allés avec des sous-marins qui, je pense, n'étaient pas faits pour. Et ils sont allés à des immersions qui sont vraiment... C'était un acte suicidaire, hein, ce qu'ils ont fait. Non, je le ferai pas du tout.
Incroyable quand même, parce que c'était des gens qui avaient tous les moyens financiers pour éviter ce genre de catastrophe quand même.
Tout à fait, mais non, moi je me frotterai pas à ces profondeurs.
Et je pense que dans le milieu des sous-mariniers professionnels, on a dû être stupéfait d'une telle catastrophe.
Alors nous, en tant que tels, dans les, enfin, avec les sous-mariniers que je côtoie, pas du tout. Un sous-marin comme celui-ci, aller à des telles profondeurs, c'est vraiment un acte suicidaire. Hein. On n'était pas choqués. Hein, les sous-marins militaires ne vont pas du tout à ces profondeurs, donc c'est pas étonnant la débouchée qu'il y a eu.
Les commandants de sous-marins sont parfois représentés comme des personnages misanthropes aux idées assez dangereuses.
Par exemple, ce fameux capitaine inventé par Jules Verne dans 20 milieux sous les mers, un roman datant de 1866.
Alors 20 milieux sous les mers, hein, c'est un monstre marin effrayant et phosphorescent, a été signalé dans plusieurs mers du globe, causant plusieurs naufrages. Alors on envoie une expédition qui s'organise et après des mois de recherche, la frégate croise le chemin du mystérieux capitaine Nemo, commandant du sous-marin, le Nautilus. Bande-annonce du film de Rod Hardy, datant de 1997, avec Michael Caine dans le rôle principal.
Appelez-moi par mon nom, je vous prie.
Et quel est votre nom, monsieur ?
Je suis le capitaine Nemo. Vous avez découvert un secret que nul homme sur Terre ne pourra connaître.
Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ?
Je ne tolère pas d'être interrogé !
Vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte dont l'invité est Louis, 18 ans, futur pilote de sous-marin.
Alors Louis, on ne peut éviter de parler des dangers qui accompagnent la vie des sous-marins et des sous-mariniers, les risques d'accident, d'attaque en cas de conflit. Comment on gère cette réalité ? Est-ce qu'on vous a formé pour y faire face ?
On est formé pour faire face aux risques. Après actuellement, il n'y a pas eu tant d'accidents de ça sur les sous-marins. Militaire en tout cas. Après c'est l'actualité hein, qui fait les dangers de la mission ou pas. Dans tous les cas, les SNLE sont déployés, c'est la dissuasion nucléaire française, donc ils sont en mer dans tous les cas. Après c'est les ordres qu'on reçoit qui font que la mission peut être dangereuse ou pas.
Ouais, c'est ça, quand vous partez en mission en fait, vous ne savez pas ce qui vous attend.
Tout à fait.
Est-ce que vous savez au moins vers quelle direction vous allez Rien.
Pas du tout.
Vous montez à bord et puis c'est tout.
C'est ça.
En fait, est-ce que quand vous êtes en mission, vous savez où vous êtes ou pas ?
Le commandant sait où on est, ouais. Nous, non.
Non ?
Non.
D'accord. Donc, faut vraiment faire confiance totalement au commandant.
C'est ça. Après, ça ne nous servira à rien de savoir où on est. Dans tous les cas, on est dans l'eau. Donc,
Oui, on est dans l'eau, oui. Et vous savez non plus combien de temps ça va durer ?
On a, de ce que j'ai entendu, normalement, quelques semaines avant le retour de mission, on peut avoir une date plus ou moins précise à laquelle on peut rentrer. Mais sinon, quand on part, non. On ne sait pas combien de temps on part.
J'aime bien quand tu dis quelques semaines avant la fin de la mission. Oui, c'est quand même... Alors, c'est pas un peu effrayant de savoir qu'on part et sans savoir quand on va revenir, non ? Ça te...
Après, on sait qu'on ne part pas non plus pour un an.
Oui.
Après, non, hein, de toute façon, on s'engage pour ça. Donc, c'est pas une crainte.
D'accord. Dans une société où il faut tout réserver, tout prévoir à l'avance, donc c'est un petit peu... C'est vraiment l'aventure quand même.
Ah oui, non, on ne prévoit rien du tout, parce que du jour au lendemain, tout peut changer. Donc, non.
Voilà. Alors, avant de se quitter, je vous avais promis une version surprenante du Yellow Submarine des Beatles, qui d'ailleurs a pour l'occasion changé de couleur. On écoute.
Nous avions tous le même âge, les mêmes joies, quand un jour, dans le village, un vieil homme nous raconta son séjour au fond des mers dans un beau sous-marin vert. Aussitôt, sans un adieu, comme de vrais marins courageux, nous partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert, vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus, prévoyant des jours de fête à la gloire du commandant. Nous avions une fanfare. Allez les gars là! Partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert, vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus.
Là ça y est, voyou, attendez, c'est le branle-bas. Ça remue, hein? Ça chauffe. Bah, il faut bien, bien que ça chauffe. Parce que si ça chauffe pas, ça refroidit. Hein? Maintenant, nous sommes des hommes. Et parfois, quand rien ne va, quand nos jours sont monotones, dans un rêve comme autrefois, nous partons dans le beau sous-marin vert, papa, notre sous-marin vert, papa, vert comme la mer, papa.
Ouais, Léonore, est-ce que toi tu te sentirais prête à partir comme ça en mission pour une durée indéterminée, sans pouvoir communiquer avec tes proches? Est-ce que...
C'est sûr que ce serait vraiment l'aventure, mais ça pourrait se faire en effet, parce que ce serait vraiment quelque chose à vivre, je pense.
Alors donc peut-être tu feras un reportage encore une fois à bord d'un sous-marin, peut-être.
Pourquoi pas, pourquoi.
Ouais, ça serait pas mal.
Merci
ouais.
pour l'idée.
Voilà, on retient. Oui, alors à propos de Maurice Chevalier qu'on vient d'entendre, on l'a connu plus inspiré à notre Momo National. D'ailleurs, Maurice Chevalier, on le retrouvera bientôt dans Rendez-vous Compte pour ses rapports avec une personnalité exceptionnelle née à Enghien. Je vous en dis pas davantage, peut-être certains d'entre vous ont deviné.
Voilà, notre émission se termine. Merci à Louis. On se retrouve un peu plus tard dans l'année pour que tu nous racontes tes expériences de sous-marin en actif.
D'accord, tu reviendras?
Avec plaisir.
Mais on sait pas quand.
C'est ça.
Et on peut pas t'envoyer de messages comme ça, non? C'est que tes proches.
Bon, y a une fiche à remplir avec les coordonnées de ceux qui vont nous envoyer des messages. Donc non, c'est pas n'importe qui.
Donc on peut pas t'en envoyer?
Non.
Ah, c'est dommage. Je t'aurais bien envoyé un petit message. Peut-être qu'on passera d'ailleurs par Mathilde. Ta sœur, parce qu'en fait Mathilde, c'est elle qui a permis cette rencontre. Mathilde qui, comme toi, est pleinement engagée au service des autres. Toi, c'est pour la défense de la France hein, et des valeurs de la démocratie. Et Mathilde, elle est notamment engagée auprès des enfants malades, parrainés par l'association Monsieur Nez Rouge. Et Mathilde, elle a été notre invitée le 7 septembre pour le premier rendez-vous compte de la saison, pour nous raconter sa marche de l'espoir qu'elle a organisée pour la petite Célia, atteinte d'une maladie grave. Donc, elle aussi, finalement, s'est mise au service des autres. Voilà. Un dernier mot, Louis?
Non, bah merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça permet de mettre la lumière sur les sous-mariniers en France, sur la marine nationale. Il y a de moins en moins de jeunes qui s'engagent, donc il en faudra un peu plus.
Alors, à ton avis, pourquoi les jeunes s'engagent moins?
Ouais, je sais pas si c'est l'envie de moins travailler ou de gagner plus en travaillant moins, mais en tout cas, la marine, c'est une très belle institution, il en faudrait plus.
D'accord. Bon, et on gagne bien sa vie quand même dans la marine ou pas?
Ça dépend ce qu'on appelle bien gagner sa vie. Ouais. Moi, je considère que pour un jeune d'à peine 18 ans, je gagne bien ma vie.
Voilà. Donc, appel aux jeunes qui ont envie de se mettre au service de la France. On en a bien besoin. Et Léonore, un dernier mot?
Merci aussi de m'avoir invité et accueilli pour cette première émission de radio. C'était vraiment très intéressant.
Et tu pourras revenir quand tu veux.
Merci, avec plaisir.
Voilà, c'était Didier Delatte sur IDFM. Merci à Francky pour la réalisation. Merci à Léonore aussi pour sa participation. Et merci à Louis d'ailleurs, hein, qui reviendra au cours de l'année.
À la semaine prochaine, même heure, même adresse.
Pour un nouveau rendez-vous compte et de nouvelles rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, comme les sous-mariniers, et des projets solidaires partagés, comme celui de Mathilde, hein, pour Célia, des créations originales qui, autour de nous, enrichissent notre présent.
Ce sera ici et maintenant.